Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 7, chant 3. L'entrée dans les pays intérieurs. Tout d'abord, sortie de la trépidation affairée du mental, subitement, comme d'une foule bruyante au marché, elle est entrée dans une caverne par la magie d'un moment d'intériorisation. Son moi est devenu une vacuité nue et silencieuse. Désertée par les voies de la pensée, son mental fixait la nudité abyssale d'un infini muet. Ses hauteurs s'éloignaient, ses profondeurs se refermaient derrière elle. Tous lui échappaient, la laissaient béante. Mais quand elle est revenue à son moi pensant, une fois de plus, elle était une créature humaine sur la terre. Un paquet de matière, une maison à la vue barrée, un mental obligé d'expliquer l'ignorance, une force de vie comprimée dans un camp de travail et un monde matériel pour chamborner. Stupéfaite et comme sans connaissance, elle cherchait son chemin pour sortir du labyrinthe du passé ignorant de l'homme. Qui prenait la surface de la personne pour l'âme. Alors, une voix parlait qui habitait sur les hauteurs secrètes. C'est pour l'homme que tu cherches, non pour toi seul. C'est seulement si Dieu revêt le mental humain et prend sur lui l'ignorance morte. Tel comme un manteau et se fait lui-même le nain à trois pas. Qu'il peut aider l'homme à devenir Dieu. Déguiser en l'homme la grandeur cosmique travaille et découvre le seuil mystique inaccessible et ouvre la porte d'or de l'immortel. L'homme humain suit les pas humains de Dieu. Acceptant ses ténèbres, tu dois lui apporter la lumière. Acceptant son chagrin, tu dois lui apporter la félicité. Dans le corps de la matière, découvre ton âme, née des cieux. Dans le corps de la matière, découvre ton âme, née des cieux. Alors, Savitri est sortie des murs de son corps. Elle est restée un temps hors d'elle-même et a regardé dans les profondeurs de son être subtil et dans ce cœur, comme dans un bouton de lotus, elle a pressenti son âme secrète et mystérieuse. À cet obscur portail de la vie intérieure qui bloque nos profondeurs au mental du corps et à tout ce qui vit par le seul souffle du corps, elle a frappé et pressé la porte d'ébène. Le portail vivant a gémi sur les charnières rétives. À contre-cœur et lourdement inerte, il protestait contre la tyrannie du toucher de l'esprit. Du dedans, une formidable voix a crié « Arrière, créature de la terre !» Sinon torturée, déchirée, tu mourras. Un horrible murmure s'élevait comme d'une mer nocturne. Le serpent du seuil s'est dressé en sifflant, fatal gardien encapuchonné de monstrueux anneaux, les chiens des ténèbres hurlaient, gueules béantes et trolls et gnomes et gobelins au regard torve. Et les bêtes sauvages, rugissantes, saisissaient de peur le sang et les menaces grondées dans une langue dangereuse. Imperturbable, sa volonté poussait la barrière, le portail a basculé avec un grincement de protestation. Les puissances adverses ont retiré leur terrible garde. Son être est entré dans les mondes intérieurs. Dans un étroit passage, se dressait la porte du subconscient. Elle respirait avec difficulté, peinait, luttait pour traverser le moi intérieur dissimulé derrière les sens. Dans une densité compacte de matière subtile, une cavité remplie d'une masse d'énergie aveugle, une obstruction de miroitements trompeurs, l'épaisse barrière d'une vue qui ne voit pas. Elle a forcé son chemin à travers le corps jusqu'à l'âme. Elle a traversé une ligne, frontière périlleuse où la vie plonge dans le crépuscule subconscient et se débat entre la matière et un premier chaos mental pullulant d'entités élémentaires et de vagues formes de pensées voltigeantes à demi incarnées et des grossiers débuts d'une force sans frein. Tout d'abord, il y avait une difficile étroitesse, une mêlée de pouvoirs incertains et de volontés flottantes, car tout était là, mais rien n'était à sa place. Parfois, une ouverture venait, une porte était forcée. Elle croisait les espaces d'un moi secret, cheminait par les couloirs du temps intérieur. Finalement, elle a débouché dans une forme des choses, un début de finitude, un monde de sensations. Mais tout était encore confus, rien ne se trouvait par ses propres moyens. L'âme n'était pas encore là, seulement les cris de la vie. Une cohue et une clameur dans l'air l'enveloppaient. Une horde de sons défiait tout sens, des cris stridents et dissonants et des appels contraires. Un déferlement de vision traversait la vue. Des séquences se bousculaient sans sens ni suite. Des sentiments assaillaient un cœur embrouillé et accablé. Chacun forçait son chemin, particulier, incohérent. Nul ne se souciait de rien que de la poussée de son ego. Un rassemblement sans clé d'une volonté commune. Les pensées affrontaient les pensées et tiraient sur un cerveau crispé, comme pour arracher le siège de sa raison et jeter son cadavre dans le fossé au bord de la vie. Ainsi, la sentinelle de l'âme pourrait-elle tomber dans la boue de la nature, oubliée, abandonnée et tuée? Ainsi, la force de vie pourrait-elle renverser l'empire du mental, la nature renoncer au gouvernement de l'esprit et les énergies brutes des éléments s'emparer des sens dans une gloire de joie sans borne, une splendeur d'anarchie extatique, une orgie d'exultation grandiose et folle. Tel était l'instinct des sens vidés de l'âme, ou quand l'âme dort cachée vide de force. Mais alors la divinité vitale se réveille dedans et soulève la vie d'un doigt souverain. Sinon, comment pourrait venir la gloire et la flamme si le mental est jeté dans l'abîme? Car sans mental, le corps n'a pas de lumière, ni le ravissement spirituel des sens, ni la joie de la vie. Dès lors, tout devient subconscient, ténébreux. L'inconscience pose son sceau sur la page blanche de la nature, ou bien quelque désordre dément fait tourbillonner le cerveau et jette un chaos d'impulsions désordonnées sur les routes d'une nature ravagée, où nulle lumière ne peut venir. Nulle joie, nulle paix. Cet état maintenant menaçait Savitri. Elle luttait pour sortir comme ballottée dans une longue, interminable rue, charriée par une foule écrasante et harcelante. Heure après heure, elle avançait sans répit. Tenait tête à cette meute insensée à force de volonté. Elle arrachait sa volonté à cette horrible mêlée et fixait sa pensée sur le non-sauveur, le nom de Dieu. Car tout est devenu silence et vide. Elle était libre. Et fixée, elle arrachait sa volonté de cette horrible mêlée et fixait sa pensée sur le nom NOM, sauveur. Alors tout est devenu silence et vide. Elle était libre. Une grande délivrance est venue, une vaste espace calme. Un moment, elle a traversé une blanche tranquillité. De lumière nue jaillit d'un invisible soleil, un vide qui était un bonheur sans corps, un vacuum béatifique de paix sans nom. Mais maintenant, le seuil d'un danger plus puissant s'approchait. La mêlée du mental corporel, la progéniture de l'inconscient, et ses pensées, ses volontés désordonnées étaient tombées d'elle. Une gigantesque source de vie est apparue, mais menaçante, sans gouvernement du mental ni de l'âme subconsciente. Immense. Elle jetait toutes les énergies dans une seule et même marée. Elle faisait de sa force une mer violente et dangereuse. Dans la tranquillité, du moins silencieux de Savitri, dans la blancheur de son espace méditatif, une ruée, un torrent, un déchaînement de vie a éclaté comme une furie de vagues fouettée par les vents. Déferlant sur les sables blancs de l'été, elle noyait les côtes, une montagne de vagues à l'escalade énorme, son immense tumulte passionné. En roulant, elle criait à l'esprit de Savitri qui écoutait. exigeant la soumission de Dieu à la force sans chaîne. Une force sourde sommet, une altitude muette, un millier de voix dans une vastitude de silence réclamait le soutien du corps, du cœur, pour sauter sur la joie, le contentement de l'âme spectatrice pour son besoin d'agir, le saut de la neutralité de l'être pour la soif de puissance. Dans les étendues du mois de Savitri qui regardait, elle apportait une grandiose rafale d'un souffle de vie. Son torrent disait les espoirs et les peurs du monde, le cri de faim et le mécontentement de toute la vie et de toute la nature, et une soif que toutes les éternités ne peuvent combler. Elle demandait aux montagnes les mystères de l'âme et le miracle du feu qui ne meurt jamais. Elle proclamait une première extase ineffable cachée dans les battements créateurs de vie. Elle arrachait aux abîmes invisibles des enfers leur séduction et la magie de leur félicité délirante. Elle déversait dans la lumière de la terre l'égarement de son charme tortueux et le breuvage capiteux de la joie primitive de la nature. Et le feu et le mystère des délices interdits buissent au puits sans fond de la libido cosmique et le doux miel vin empoisonné de la luxure et de la mort. Mais elle rêvait d'une vendange glorieuse des dieux de la vie et sentait ce venin doré et sentait ce venin doré comme une ivresse céleste. Les cycles infinis du désir et la mystique qui a créé un monde pas encore réalisé, plus vaste que le connu et plus proche que l'inconnu, où chasse à jamais la meute du mental et de la vie, soulever dedans une impulsion profondément insatisfaisante à désirer l'inaccompli et le toujours plus loin, et à faire de cette vie sur une terre bornée une escalade de sommets qui s'évanouissait dans le vide, une recherche de la gloire de l'impossible. Elle rêvait de ce qui jamais n'a été connu. Elle tâchait d'étreindre ce qui jamais n'a été conquis. Elle chassait dans une mémoire élyséenne les charmes d'un délice trop tôt perdu et disparu du cœur. Elle défiait la force qui tue, les joies qui blessent, la forme imaginaire des choses inaccomplies et les invites magiques d'une danse circéenne transmutatrice. Circé est le nom de la magicienne des Grecs qui transforma en pourceaux les compagnons d'aventure d'Ulysse. Elle est tenancière de la passion sur les parvis de l'amour et les colères et les ébats de la bête sauvage avec la vie et la beauté. Elle a porté les remous et les lames de fond des forces contraires, les moments de contact sur les plans de lumière, ces ascensions brûlantes et ces vastes assauts jusqu'aux nues, ces châteaux de rêves ardents bâtis sur le vent, Ses naufrages dans l'abîme et les ténèbres, son miel de tendresse, son vin de haine cuisant, ses passages du soleil au nuage, du rire aux larmes, le danger de ses puits d'enfer et ses gouffres dévorants, ses peurs et ses joies et son extase et ses désespoirs, ses sorcelleries occultes, ses lignes directes et ses communications grandioses et ses soulèvements exaltants, sa foi en les cieux et ses amours avec l'enfer. Ses forces n'étaient pas émoussées par le poids de mort de la terre. Elle donnait le goût à l'ambroise et le mordant du poison. Elle avait une ardeur dans le regard de la vie qui voyait le bleu des cieux dans l'air gris de la nuit. Les impulsions vers Dieu mondissaient sur les ailes de la passion. Les pensées trottantes du mental du haut de leur col flottaient quelque superbe rutilance comme d'une crinière irisée, quelque parure de pure lumière intuitive. Elle pouvait imiter son galop jarré de feu. Les voix du mental singeaient les accents de l'inspiration. Sa note d'infaillibilité, sa vitesse et sa fulgurance du bon céleste des dieux, comme une lame tranchante qui coupe les filets du doute. Le glaive de son discernement semblait presque divin, et pourtant toute cette connaissance était d'un soleil emprunté. Les formes qui venaient n'étaient pas nées natives des cieux. Une voix intérieure pouvait dire le verbe de l'irréel. Sa puissance dangereuse et impérieuse pouvait mélanger le poison au vin de Dieu. Sur ses hautes croupes brillantes, le feu pouvait caracoler. La vérité reposait avec délice dans les bras passionnés de l'erreur et glissait allègrement sur la pente des zigzags dorés. Elle liserait son rayon d'un somptueux mensonge. Ici, dans les royaumes bas de la vie, tous les contraires se rencontrent. La vérité regarde fixement et fait son travail, les yeux bandés. Et l'ignorance, c'est le patron de la sagesse ici. Ces sabots qui galopent dans leur hâte enthousiaste pouvaient conduire à une zone intermédiaire dangereuse où la mort marche. Vêtue d'une robe de vie immortelle. Ou bien ils entrent dans la vallée des fausses lueurs, d'où captives et victimes du rayon spécieux, les âmes piégées dans cette région ne peuvent jamais sortir. Agents et non maîtres, elles servent les désirs de la vie, peinant à perpétuité dans les filets du temps, nés des entrailles du rien, leur corps enjôle l'esprit dans les rêves d'un moment puis périt en vomissant l'âme immortelle. Rejetée du ventre de la matière dans le cloaque du néant, pourtant quelques-uns, ni pris ni tués, peuvent passer s'ils sont guerriers. Pourtant l'image de la vérité dans leur cœur abrité, ils peuvent arracher la connaissance aux griffes hypnotisante de l'erreur. Faire une brèche dans les murs aveugles du petit moi, puis continuer vers une vie plus grande. Tout cela déferlé devant la vision de Savitri, comme si autour d'une haute île de silence, les mers tumultueuses des lointaines falaises inconnues avalaient ses étroits rivages en vagues serrées et faisaient un monde vorace d'écume blanche sauvage. Tel un dragon aux millions de pattes pressantes, son écume et ses clameurs étourdissantes de géants ivres jetaient une crinière de ténèbres dans le ciel de Dieu, puis reflétaient et s'enforçaient et s'enfonçaient dans un lointain grondement. Alors, encore une fois, souriez un air serein et large. Le bleu du ciel et la terre verte, époux du règne de la beauté. Vivez comme jadis, compagnons du bonheur, et la joie de la vie riait au cœur du monde. Maintenant, tout était tranquille, la terre brillait, ferme et pure. Pendant tout ce temps, sa vitrine n'a pas bougé, pas plongé dans les vaines vagues. Les clameurs du la vie avaient fui les vastitudes du moi silencieux. Son esprit était libre et muet. Ainsi voyageait-elle à travers son moi silencieux. Elle est arrivée à une route débordante d'une foule ardente qui se précipitait brillante, les pieds en feu, les yeux ensoleillés, pressée d'atteindre le mystérieux mur du monde et d'arriver aux portes masquées du mental extérieur où nulle lumière n'entre, ni les voix mystiques, messagères de nos grandeurs subliminales, habitantes venues de la caverne de l'âme secrète. Elle faisait interruption dans une obscure somnolence spirituelle ou faisait surgir dans notre moi éveillé, éveillé à un lointain émerveillement des idées qui nous hantent par leur fil radieux, des rêves qui suggèrent une réalité pas encore née, d'étranges déesses aux yeux magiques, comme des fontaines profondes, des dieux ardents cheveux au vent, porteurs des harpes de l'espoir. De grandes visions teintées de lune qui glissaient par un air doré, les visages et les corps sculptés d'étoiles, d'une aspiration solaire qui rêve, des émotions qui rendent sublimes les cœurs ordinaires. Et Savitri s'est mêlée à cette foule glorieuse, assoiffée de la lumière spirituelle que ces êtres portaient, impatiente de se hâter comme eux pour sauver le monde de Dieu. Mais elle a réfréné la haute passion de son cœur. Elle savait que d'abord elle devait découvrir son âme. Seuls ceux qui se sauvent même peuvent sauver les autres. Elle faisait face au sens contraire à l'énigmatique vérité de la vie, ce qui apporte la lumière à la souffrance des hommes. Courait avec ardeur vers les mondes extérieurs, elle, ses yeux étaient tournés vers la source éternelle. Ouvrant les bras pour arrêter la foule, Savitri s'est écriée. Heureuse compagnie des dieux de lumière, révélez-vous qui savez la route que je dois prendre pour trouver le lieu de naissance du feu occulte et la demeure profonde de mon âme secrète, car sûrement cette sphère de lumière est votre pays. Quelqu'un répondit, montrant du doigt un vague silence voilé aux lointaines extrémités du sommeil en quelques fonds reculés du monde intérieur. Ô Savitri, nous venons de ton âme cachée, nous sommes les messagers, les dieux occultes, qui aident la vie grise et lourde des hommes ignorants à s'éveiller à la beauté et à la lumière des choses. Il est touchant de la splendeur et de la divinité dans le mal. Dans le mal, nous allumons la flamme immortelle du bien et tenons la torche de la connaissance sur les routes ignorantes. Nous sommes ta volonté, la volonté de tous les hommes, tendue vers la lumière. Ô copie humaine, ô déguisement de Dieu, qui cherche la divinité que tu gardes cachée et qui vit par la vérité que tu ne connais pas, suis jusqu'à sa source la grande route sinueuse du monde, là, dans le silence que rare ont jamais atteint. Tu verras le feu qui brûle sur une pierre nue et la caverne profonde de ton âme secrète. Alors, suivant l'antique route sinueuse, Savitri est arrivée là où tout se resserrait, dans un étroit sentier foulé par de rares pèlerins aux pieds blessés. Savitri est arrivée là où tout se resserrait, dans un étroit sentier foulé seulement par de rares pèlerins aux pieds blessés. Quelques formes brillantes émergeaient des profondeurs inconnues et la regardait avec de calmes yeux immortels. Par le son ne venait rompre l'immobile contemplation, la silencieuse proximité de l'âme se sentait. Fin du chant 3. L'entrée dans les pays intérieurs. Savitri, livre 7, chant 3. Une infinie gratitude à Sri Aurobindo et à Douce Mère pour cette divine lecture que vous me permettez de lire à Auroville Radio pour l'anniversaire. Demain, le 28 février 2019, où Ganga Lakshmi est là depuis près de 40 ans sans jamais être sortie d'Auroville. Merci Sri Aurobindo, merci douce mère, Ganga Lakshmi.